אני אוהב אני משור ואני שרוף סיני אדיר גץ על אינסטנט ילדיים העיניים הירוקות מסיו דאם, il est temps de régler vos montres.
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Vous écoutez Radio Judaïka, il est précisément 20h et comme tous les lundis, on joue la prolongation. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On joue la prolongation comme tous les lundis. Nous sommes ensemble pendant une heure avec un coucou à notre ami Samuel Cujas qui n'est pas là aujourd'hui mais c'est pour la bonne cause. On l'embrasse et aujourd'hui on va parler foot pendant 60 minutes avec autour de la table avec nous ce soir. Nous avons deux personnes. Première d'entre elles, il est là chaque semaine. Il est fondateur et CEO de Sportimize. Un foot-foot. Jaune et bleu et noir, on peut dire ça comme ça. Il aime l'Union comme beaucoup de gens en Belgique. Il aime Bruges comme énormément de monde en Belgique, en tout cas moi. C'est Alex Demeter. Bonsoir Alex.
Bonsoir Didier.
Ravi de te retrouver en ce lundi. On va parler foot, bien sûr, Jupiler Pro League. Et puis, on ne peut pas parler de Jupiler Pro League sans évoquer le club le plus titré de notre royaume, bien évidemment. C'est une très très vieille chanson.
De plus en plus vintage. Comme le dernier titre.
Je peux pas vous cacher que je suis supporter des mauvais blancs.
Eh oui, c'est Anderlecht et avec en studio un de ses fervents supporters, Henri Daniel. Bonsoir.
Bonsoir Didier, bonsoir Alex. Très très content d'être là aujourd'hui.
Ah bah oui, ça j'imagine.
J'ai des choses à défendre.
Alors au programme pendant une heure, on va parler foot, je le disais, on va parler Jupiler Pro League, on va revenir sur cette 20e journée qui a eu ma foi pas mal de rebondissements, pas mal de surprises, il y a pas mal de choses à dire. On reviendra aussi tout à l'heure, plus tard, bien sûr, la journée de Première Ligue qui a vu un derby fort attendu chaque année, derby mancunien entre City et United, plus particulièrement United contre City, et on parlera aussi de la France où le championnat s'est relancé à la faveur de la défaite, pardon Sam, du PSG à Rennes qui n'en finit pas de surprendre cette année. On verra cela et puis à la mi-temps de cette émission, on sera avec toi Alex et on parlera du foot business bien sûr, à la minute Sportimize, ce sera dans une bonne demi-heure par là.
On peut déjà teaser, ça parlera d'Arabie Saoudite.
Ah, dites donc. Comme disait la blague, l'Arabie Saoudite, c'est par là, mec. Oui. Très drôle. Ça, oui,
efficace.
C'est les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître cette vanne pourrie. Bien.
Ça te fait un public, les moins de 40 ans.
Et alors, il y en a même qui disaient, mais attention, il fait sale.
D'accord.
C'est comme ça. Bien. Nous sommes ensemble, je vous le disais, pour une heure et on va attaquer, dans le dur, on va parler de Jupiler Pro League. Un week-end bien fort intéressant qui a commencé vendredi avec vendredi un petit Westerlo Aude Everley Louvain, donc Westerlo OHL. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet. Victoire des Louvanistes à Westerlo, c'était presque un derby, c'est pas très très loin non plus. 1-2 au Cuypes, comme
c'est
on dit.
C'est un derby dans le classement aussi, il faut pas oublier, Westerlo est 7e, Louvain 8e.
Eh oui, mais c'est finalement Louvain...
Les matchs en jeu.
Bah oui, bah, Louvain n'en finit pas de surprendre. C'est une équipe qui n'est pas facile à vaincre en fait, elle est pas très glamour, mais en fait sur ses terres elle est difficilement battable, mais en même temps, depuis peu, elle s'exporte plutôt bien.
À Bruges, notamment.
Eh oui, on va pas, hein, on va éviter les sujets qui nous rendent trop tristes, n'est-ce pas?
Ah bon?
Donc, ah, Anderlecht aussi, ceci dit.
Ah oui, oui, non, là, on est bien d'accord. Anderlecht, qui a fait la bonne opération du week-end, d'une certaine façon. Samedi, il y avait un très, très intéressant Serein Standard de Liège. On déplore la défection ce soir de notre ami Steve Gris, qu'on embrasse, il nous écoute. Standard, on a envie de dire qu'il n'a pas fait mieux que le match nul à Serein, sur un champ de patates, comme on a coutume de le dire. Ceci explique peut-être cela aussi, d'une certaine façon, l'état du terrain déplorable.
Oui, bon, on l'a déjà évoqué dans l'émission aussi, ce terrain est spécial. Mais chaque équipe doit pouvoir s'adapter. Et le Standard est battant dans leur rang aussi. Mais il ne faut pas oublier, le Standard, depuis la remontée de Serein en D1, il gagne pas souvent.
Hein. Ah non, du tout. Mais il faut dire que c'est un match qui revêt une importance toute particulière, probablement plus du côté sérésien que du côté du Standard, parce que c'est presque le match de l'année pour les sérésiens.
Oufti, oui.
Oufti, hein. C'est normal, hein, ça, en fait. Et puis, un partage de frères, on va dire, mais qui ne fait finalement le bonheur de personne. Au regard aussi des résultats des autres équipes, Serein qui, finalement, prend un point, ce qui pour eux chaque semaine est...
C'est un bon point, mais voilà. Ce n'est pas assez si on prend connaissance de ce qui se passe à Waregem et à Courtrai.
Exactement. Exactement.
Je pense qu'un point était vraiment insuffisant. Ils prennent quand même 5 points sur 6 contre le Standard.
Ah, oui, c'est
ce qui
vrai.
Sur papier est bien, mais leur situation est quand même inquiétante. Il reste quoi, 14 matchs, je pense.
Oui, tout à fait.
Un truc comme ça.
Ça devient très très délicat et heureusement, et on y reviendra tout de suite puisque le topper avait lieu ce week-end, heureusement que qu'Anderlecht a pu prendre un point miraculeux et ce n'est pas le Brugeois qui parle, c'est le spectateur neutre a pris un point miraculeux hier au Jan Breydel Stadium qui fait que avec un point de moins, Anderlecht serait à 4 points, je pense, du premier relégable, ce qui aurait été quand même ça aurait fait tâche quand même. Dans leur CV, 4 ou 5
si
points.
Si on enlève les buts contre son camp,
qui
ramène 4 points à Anderlecht lors des 3 dernières journées, effectivement, Anderlecht est dans une mouise pas possible.
Et
il ne faut pas oublier, même si Anderlecht prend un point, ils ont perdu 2 places au classement parce que Charleroi a gagné. Tu y reviendras sûrement au match du dimanche soir.
Exact.
Et il y a une autre équipe qui a gagné aussi. Qui m'échappe et qui traîne là autour.
Gand a gagné,
effectivement.
Gand attaque la 4e place plutôt.
Oui, tout à fait. Et puis en même temps, tu as Malines qui a battu au stand.
Et c'est cette équipe-là qui a dépassé Anderlecht aussi.
Oui, tout à fait. Donc tout est ouvert un petit peu en haut. Ça commence à se décanter solidement. Je pense que ça va être une lutte pour la 2e place, peut-être pour un autre que l'Union. Encore que, au vu du résultat de l'Union hier, on y reviendra. Franchement, l'Union mérite, et je pense qu'ils ont vraiment appris depuis l'année passée, parce que ils jouent maintenant avec beaucoup plus de maturité, et je veux dire par là beaucoup moins naïveté surtout. Ils ont vraiment une rigueur tactique absolument phénoménale qu'on les soupçonnait pas d'être capables de ça. Ils savent garder un résultat, ils savent revenir dans chaque match. Enfin bref, on leur souhaite tout le meilleur parce que c'est franchement beau à voir. Et hier, ils ont battu l'Antwerp, qui était l'autre match au sommet de la journée d'hier, occulté un petit peu par le topper, et on va y revenir.
C'était le vrai match au sommet. C'est le 2e contre le 3e.
Absolument.
Bruges, c'est leur pire saison en 15 ans, j'ai envie de dire. Allez, toute proportion gardée. Et Bruges ne jouait contre le 13e au classement aussi. Donc ça a une allure de topper.
Non,
mais ça n'en était pas un, je trouvais.
Et sur le terrain non plus.
Ben justement,
et à l'affiche.
On peut y revenir justement, et on va commencer par là avec le club de Bruges qui n'a pas pu se défaire d'un Anderlecht laborieux, j'ai envie de dire dans les deux sens du terme, parce qu'ils ont travaillé, on peut pas leur reprocher leur implication, mais franchement, c'est un peu J'étais à la limite, j'ai envie de dire, je me demande si ça n'aurait pas été mieux pour Anderlecht de perdre ce match, vraiment, parce que là, j'ai entendu des discours, notamment celui de Brian Riemer, le nouvel entraîneur d'Anderlecht, qui disait, ben oui, finalement, on a fait jeu égal en première mi-temps. Ah oui, il l'a dit, hein, clairement. Ah oui, il l'a dit.
Oui, je tire une drôle de tête. On ne le voit pas, mais
tout à fait.
Il l'a dit, mais après.
C'est de la com.
Mais c'est après, de la com peut-être, mais en même temps, les joueurs, ils ont un point.
C'est plus de la com interne. C'est pour motiver ces joueurs et dire. On doit continuer à se battre parce qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses. Anderlecht se bat. C'était le cas à Charleroi. C'était le cas la semaine dernière face à l'Union. Ils ont quand même tenu la dragée haute à l'Union à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Enfin, à 10 contre 11 pendant 74. Et à la 80e, ils ont encaissé. Et cette fois-ci, face à Bruges, ils ont osé mettre le pied. Ils ont... C'est le mérite d'Anderlecht d'avoir pris un point aussi, même si Bruges fait une erreur débile en défense, même si Bruges a un problème psychologique et qu'il n'arrive plus à turn on le bouton et à aller de l'avant une fois qu'ils encaissent. C'est le mérite d'Anderlecht aussi, et le changement tactique de leur entraîneur, en faisant entrer très belle et en se repositionnant au milieu et en se regroupant entre les lignes, ça a fait que Bruges n'a plus su se créer une occasion, par une occasion de la tête, je pense, lors du dernier quart d'heure du match.
En même temps, lors du dernier quart d'heure du match, c'est compliqué d'avoir une occasion de la tête, puisque Yaremchuk avait été sorti pour faire place à Jutla, et donc c'est pas sur Jutla qu'il faut compter pour prendre une balle sur un centre.
C'est pas sur le pied d'Yaremchuk non plus.
Tu dis ?
C'est pas sur le pied d'Yaremchuk.
Non, mais enfin, Yaremchuk, alors, on peut tirer à boulet rouge sur lui, 12 millions d'euros, et beaucoup
17.
De, ou 17, oui, c'est vrai. Encore alors, bien. Les gens disent c'est quoi, mais le gars, il a bossé, il a créé des espaces pour ses partenaires, dont les partenaires, et finalement, Buchanan, il fait un extérieur du pied plutôt qu'un intérieur, elle rentre à tous les coups dedans. On va pas revenir sur le match, je veux dire, le match doit être plié déjà à la mi-temps,
c'est sûr.
On est d'accord, ça doit être 2 ou 3-0, mais il y a même pas à discuter. Et j'ai envie de dire, j'ai lu un article chez nos confrères de la DH, intitulé, ou un truc comme ça, c'était un topeur de malade, et c'est vrai, et, sauf dans le jeu développé, on est bien d'accord, mais c'est deux équipes malades. Et
clairement.
En fait, j'ai envie de dire, la réponse est dans la question, dans ce que tu disais, Alex, de mon point de vue. Quand tu dis Anderlecht, c'est battu, ils sont battus, ils ont un point, c'est quand même incroyable.
C'est
Je
pas
le
la
disais
DNA.
En te présentant tout à l'heure, l'équipe la plus titrée du royaume, la plus connue, la vitrine du football belge, c'est comme ça, c'est ce qu'elle est censée représenter. Et on est en train de se dire, ah c'est super, ils se sont bien battus. On dirait qu'on parle d'une équipe relégable. Il faut arrêter.
Ils le sont
presque. Arrêter. Mais c'est ça. Je veux dire, moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'au moment où ils marquent leur but, les stats sont impressionnantes. Zéro tir cadré, un but.
Et 0,11 de expected goals.
Exactement. Et à l'inverse, je crois que c'était 2,35 ou même plus pour Bruges, avec un goal qui est très, très joli. À la phase est vraiment splendide. Mais, enfin, normalement, tu refais ce match 100 fois, 99 fois, tu te sors avec un 2, 3, 4, ou peut-être même une casquette. Il y a rien à dire. Il y avait une équipe sur le terrain, même si l'autre mettait le pied. C'est ça,
oui, qui était impressionnant. On est d'accord, mais c'est ce qu'on disait la semaine passée, et c'est ce que j'expliquais la semaine dernière aussi. Tu as un problème profond à Bruges, et Scott Parker, avec toute la bonne volonté qu'il puisse amener, il ne va pas régler ce problème psychologique dans les semaines à venir pour moi. Pour moi, le problème, ça me fait penser aux saisons il y a 20 ans. Pour nos plus jeunes auditeurs, il faut savoir que Bruges était en Coupe de l'UEFA qui à l'époque se déroulait par tour. Donc tu étais Knockout, phase aller-retour, et tu passais le tour comme ça. Bruges avait affronté Lyon. 4-1, Yann Bredel en feu, en folie, c'était une soirée exceptionnelle.
Jacky Munaron. Ah non, ça c'était Anderlecht qui avait pris.
C'était autre chose, ouais. C'était Belgique, on parle de 2002, 2003, 2004. Et Bruges gagne 4-1 face à Lyon. Le Lyon qu'on va connaître, qui va remporter 7 fois consécutivement le championnat de France.
Avec De Flandre,
tout à fait. Mais du côté de Bruges, j'avais Englebert, De Brulle, d'autres joueurs emblématiques qui ne feront plus rêver aujourd'hui. Mais Bruges gagne 4-1. Bruges encaisse à la 93e minute un but à Lyon, perd 3-0, est éliminé, et c'est un fardeau qu'ils ont tiré toute la saison avec des crises de panique en fin de match.
Bien
et ils encaissaient.
Perte de confiance. Ouais.
Perte de confiance à cause d'un fait, et c'est ce que tu revois aussi maintenant. Face à Louvain, tu as cette crainte, tu encaisses. Face à l'Antwerp, tu mènes 2-0, ils reviennent à 2-2.
Union pareil.
Union, exactement pareil, sauf que l'Union était à
en
10,
fait,
encore pire.
Et tu as eu ce problème. Dans les 5 derniers matchs, voire 6, Bruges a marqué le premier, même à Genk.
Oui, et Bruges a pris 3 points sur 15 et s'est farci une élimination en Coupe
exactement.
De Belgique.
Exactement. En ayant marqué deux fois le premier, enfin deux fois un but et ils n'ont pas réussi à gagner en ayant marqué deux ou trois fois deux buts. C'est assez compliqué. Je voudrais revenir un moment sur Anderlecht, si tu permets, Alex, et je m'adresse maintenant à Henri. Toi qui es supporter, comme moi je suis de Bruges, toi t'es supporter d'Anderlecht, t'as pas mal à ton Anderlecht quand tu les vois jouer comme
mais
ça
mon
aujourd'hui.
Mon Anderlecht, je me demande si c'est celui qu'on voit à la télé pour l'instant.
Non mais c'est-à-dire même, quand je dis à ton Anderlecht, c'est l'équipe de ton cœur.
Bien sûr, ça fait mal au cœur, mais on a déjà parlé, on a du mal à s'identifier tout ce qui se passe encore en coulisses la semaine dernière avec la direction qui se met en retrait, qui se met pas en retrait, qui rencontre les supporters.
Mais ça c'est autre chose, ça, oui, j'ai envie de dire, c'est extra-sportif. Dans le sportif.
Dans le sportif, c'est...
Quand tu vois cette équipe jouer, je veux dire...
Tu disais une équipe qui se défend, c'était pas la DNA d'Anderlecht, c'est clair.
Non, on a pas vu, allez, on les voyait faire de très belles sorties de défense, rien à dire. Et puis après, à 35 mètres des buts adverses, il n'y a plus rien qui se passe, c'était des passes en retrait. Et ce qui m'étonne, c'est que en regardant le mercato qui est en train de se dérouler... On parle, il vient de signer, c'est un Danois, je crois, ou
un Danois.
C'est un international danois qui s'appelle Meyer, qui a 24 ans.
Ouais.
Qui est considéré encore comme un très bon joueur au Danemark. Mais comme tu veux le dire, Didier, c'est un arrière-gauche.
C'est un arrière-gauche. On parle éventuellement d'un milieu terrain. Je n'entends pas parler d'un attaquant. Je parle même pas d'un numéro 9, hein. Mais quelque chose qui produise du beau jeu. Un défenseur, c'est là.
Sachant qu'Esposito est parti. Mais il est retourné en prêt.
On est bien d'accord. Donc, je suis très étonné sportive de voir.
Je suis d'accord que la gestion sportive est étonnante.
Oui, mais enfin, moi, j'ai pas les prétentions d'être un gestionnaire sportif d'un club de foot, non, loin de là.
Le directeur sportif.
Quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, ça défie toute logique, en fait.
C'est-à-dire qu'ils ont fait venir un directeur sportif danois, qui n'avait pas composé le noyau actuel. Le noyau était déjà établi quand il est arrivé. Et maintenant, moi, je pensais qu'avec le mercato d'hiver, il allait pouvoir ajuster. J'ai vu qu'il laisse partir à tel âge.
Excuse-moi, quand tu vois que les supporters demandent à Van de Noot de venir le rencontrer, Riemer est allé rencontrer les supporters. Ouais. Quand tu vois les supporters et que tout le monde dit, que ce soit les pour ou les anti Anderlecht, tout le monde dit Anderlecht a une assise défensive, c'est une bonne défense. C'est pas là que le bât blesse, c'est vraiment dans le jeu produit et à l'avant. Et tu n'entends pas un seul, alors peut-être que l'avenir va me démentir, mais tu n'entends pas un seul nom ou une seule recherche d'un avant-centre, de quelque chose.
A priori, ils ont annoncé que le mercato était fini.
Ah ben voilà, donc ils ont pas fini d'avoir des soucis.
Je pense qu'on doit recadrer certaines choses. Oui, l'entraîneur Riemer est arrivé, c'est un Danois qui vient de Brentford. Il y a Fred Berg, qui était le directeur sportif de Viborg au Danemark, qui a débarqué. Il a débarqué début décembre, si je ne me trompe pas. Mmh. Il faut savoir qu'il faut mettre quelque chose en place. Il y a déjà tout ce problème interne entre Wouter van de Noot et Peter Verbeek, qui lui était le directeur sportif. Ils n'étaient pas d'accord sur le choix du coach avant la saison. Ça s'est traduit dans une fissure, d'où le licenciement de Kindermans, qui aujourd'hui devrait revenir.
Il n'est pas vision.
Il y a un vaudeville incroyable dans l'institution. Mais surtout, le directeur sportif arrive. S'il n'a aucun dossier sur lequel s'appuyer, c'est pas en 3 semaines de temps qu'il va te dénicher des transferts qui sont bon marché, qui fitent dans le budget et qui vont apporter une plus-value. Et ça, c'est le grand problème. Les autres clubs, ils savent déjà aujourd'hui qui ils vont recruter, ou ils ont déjà des shortlists de qui ils vont recruter en juin-juillet.
Moi, j'ai une théorie. Je pense que la saison actuelle est ouvertement une saison de transition, mais ils peuvent pas le dire. Ils n'ont plus d'ambition sur cette saison-ci.
Enfin, excuse-moi, transition. Je crois que les fesses serrées, comme dirait Marc Delirin, hein, parce que franchement.
Non, mais je pense qu'ils ont clairement perdu l'ambition d'être dans le top 4.
Mais même, indépendamment de tout, je suis désolé, moi j'ai vu.
Ils sont éliminés en Coupe de Belgique. Je pense qu'il n'y a plus rien à gagner à part rester en
Mais guerre. excuse-moi. Quand tu es professionnel, il n'y a plus rien à gagner, alors à ce moment-là, reste à la maison. Je veux dire, tu es quand même là pour mouiller le maillot.
Là, tu parles des joueurs.
Peu importe les joueurs, l'entraîneur, le staff, tout. Tu es là pour prendre le maximum de points avec tes armes. Moi, j'ai vu un Genk Zult ce week-end. Franchement.
Tu es courageux.
Tu dis ?
Tu es courageux.
Je suis courageux, mais. Excuse-moi, en termes de fond de jeu, j'ai vu plus de belles choses sur Zult, et c'est pas que sur un match que je le dis, c'est depuis le début de la saison, Zult produit du beau jeu.
Mais je dis pas que je
prenne pas de points, parce que personne ne marque un but contre son camp, contre eux, mais en définitive, mais c'est vrai, hein, je dis ça.
Mais je dis pas que je cautionne, c'est ce que j'analyse, j'ai l'impression qu'il laisse couler cette saison-ci.
Mais comment est-ce que tu peux te permettre, quand tu t'appelles Anderlecht, de laisser couler, je veux dire, c'est juste.
Mais il faut pas trop laisser couler non plus, il y a toujours une relégation à éviter.
Bien, c'est ce que je pense.
Ce qu'on constate avec la mise en place en coulisses, comme tu dis, c'est extra-sportif, mais quand même, un directeur sportif qui arrive en décembre, un entraîneur qui arrive en cours de saison.
Ouais, mais enfin, ça dans tous les clubs. Hein.
Non, mais je suis.
Je veux dire, Bruges a eu la même chose pas, et ils sont quand même dans le top 4. Même alors, on
mais
va
je
dire,
en veux
oui, du... le budget n'est pas le même.
Non, je leur en veux de manque d'ambition. Je suis d'accord avec toi.
C'est monstrueux, franchement.
Et je trouve c'est pour ça que les supporters sont indignés parce qu'on saoule leur gueule en fait. Moi, je pense que c'est une saison de transition dans leur tête et que ils investiront.
Très honnêtement, moi, je t'avoue, je suis un Brugeois pur jus et Alex, je pense aussi à son club de cœur. Très honnêtement, moi, je préférerais perdre un championnat face à un grand Anderlecht, un grand Standard, un grand Genk, un grand Union, avoir quelque chose, mais voir une équipe comme ça, moi, ça me fend le cœur, hein, honnêtement. Hein.
Non, mais il faut remettre les choses en place. Le but avant la saison était d'avoir une place honorable dans le top 4. Le noyau n'était pas assez bon.
Non.
Le staff n'a pas réussi pour diverses raisons d'atteindre cet objectif. Il y a d'autres personnes maintenant qui sont mises en place. Et je trouve qu'avec ces personnes, on ne leur fait pas nécessairement un cadeau, ni par la date d'arrivée, mais ça, c'est encore une variable qui n'est pas contrôlable. Mais comme tu l'as dit là tout de suite, d'envoyer Riemer et Fredberg voir les supporters, ces deux pauvres gens, ils n'ont rien à voir avec le malaise. C'est pas eux qui ont pris les choix décisions stratégiques.
Ce sont les fusibles.
Ce sont effectivement les fusibles, comme Jean Kindermans qui est la surprise du chef la semaine dernière de se faire licencier. Et c'est lui, il a sorti la moitié de l'équipe nationale. Hein. Il faut pas oublier ça non plus.
Non, tout à fait.
Mais du coup. C'est pas un cadeau pour eux, surtout dans une situation, de merde. Et ils doivent essayer d'en tirer un maximum. Et donc, pour moi, ça devient une saison de transition où on va essayer de tirer les marrons du feu. Mais tu dois déjà maintenant commencer à analyser qu'est-ce que tu auras besoin comme profil de joueur pour l'année prochaine.
Mais il y a un an, ils disaient déjà ça. Hein.
Mais oui, c'est ce que
je pense que les supporters, ils ont ressenti comme moi que c'est, on a l'impression qu'on leur fout sous leur gueule, que c'est pour les directions, c'est une saison de transition, mais on leur dit pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont gueulé, ils ont voulu avoir
22 ans tête à tête. Transition. C'était pas le but à la base.
C'était pas le but, mais maintenant, avec les résultats, avec l'élimination en coupe et la position en classement,
Alors excuse-moi, si en com ils disent voilà c'est une saison de transition et qu'ils l'auraient déjà dit il y a 2 mois, ça veut dire quoi que les supporters diraient ah ben oui vous avez raison bonne idée.
Non.
Ils seraient pas contents non plus, donc ça change quoi. Ouais. Soit saison de transition ou pas saison de transition, le dire ou pas le dire, ça change quoi. Ça change juste rien. C'est sur le terrain, c'est la vérité du terrain.
Je suis d'accord avec toi.
Et alors, en termes de mentalité, je trouve que les joueurs font honneur à leur, je sais pas si c'est leur maillot parce que le football développé, c'est vraiment pas ça, mais en tout cas, à leur salaire, c'est déjà pas mal. Mais pour le reste, franchement, quand tu vois les erreurs commises, notamment la semaine passée au niveau du staff, là, c'était
le changement.
Le changement, c'était Sardella.
Sardella, absolument.
C'est de l'amateurisme à tous les étages. Ça fait peur, quoi.
C'est pour ça que les supporters ont convoqué. C'est vraiment ça qui s'est passé. Les supporters qui ont convoqué la direction.
Oui, mais enfin bon.
Mais qu'est-ce qu'ils fassent d'autre?
Je ne sais pas.
Boycotter le stade.
Finalement, on tire à boulet rouge aussi sur
faire les imbéciles au Standard et sacrifier un match.
Voilà, mais ça, c'est autre chose. Mais l'année passée, où il y a 2 ans, au Standard, la fronde, elle est tout le temps sourdine dès qu'il y a 2-3 mauvais résultats. En définitive, on voit une équipe du Standard qui est pas sortie des flûtes, c'est vrai. Mais bon, ils ont quand même fait un mercato avec les moyens du bord. Mais finalement, je trouve que dans toutes les équipes, en dehors de ce que j'ai vu hier et de ce que j'ai vu 2-3 semaines avant, franchement, on dirait que c'est une équipe promue,
Il y a quand même une puissance financière différente derrière. Standard appartient à 777 Partners. Ils se sont offerts 64% du Hertha Berlin pendant la Coupe du Monde. Mm-hmm. Il y a eu un rehaussement de capital qui a été fait au Standard pour éponger les dettes et pour avancer, pour ne pas avoir des problèmes avec la licence dans un premier temps. Mais il y a autre chose derrière. Il y a au Standard, et je l'ai dit aussi en début de saison, il y a un réel projet qui s'installe. On a dit clairement aux supporters, ça va prendre du temps. Cette saison, elle ne sera pas celle de vos attentes, mais on va faire un maximum. Et ils font un maximum.
Oui, mais en même temps, les mecs qui investissent, je pense qu'ils s'y connaissent, même si ça vient des États-Unis. Mais je doute, les Américains étant très money-making, c'est des gens qui n'arrivent pas comme les perdreaux de l'année. Ils se sont rencardés, ils connaissent un petit peu. J'ai l'impression que, comme des équipes à Venanzi à l'époque au Standard, ou maintenant à Anderlecht, j'ai l'impression que c'est des gens... à l'époque, j'avais un ami fou d'Anderlecht du temps de Van den Stock, le fils, Roger, qui disait, le CA d'Anderlecht, c'est des golfeurs. C'est pas des footballeurs, c'est des golfeurs. Et j'ai l'impression qu'on est resté à ce stade-là. J'ai l'impression qu'ils comprennent rien.
Il y avait un article dans la DH aujourd'hui qui disait Marc Cook doit ou investir ou vendre.
Oui, mais enfin, Marc Cook, excuse-moi, il met des sous dedans. Et on l'a vu comme le Messi quand il a fait venir Compagnie encore plus. Et puis finalement.
Il s'amuse la série. Oui. Non, pas Samir, non. Samir Nasri. Samir Nasri.
Nasri.
Il était en prison.
Aussi.
Mais
c'est sa résidence.
La différence, c'est que Van den Stock voulait vendre à quelqu'un de belge pour garder cette âme du club aussi. Mm-hmm. Il ne faut pas l'oublier. Venanzi avait acheté le Standard à Duchâtelet. Duchâtelet a vidé les caisses. C'est un des pires magouilleurs de l'histoire du football belge aussi, lui, hein, parce qu'il attaque les arbitres et les autres équipes. Mais ce que lui a fait au Standard, il a vidé les caisses, il est parti. Et il s'est approprié une partie du stade. Et de l'autre côté, il était à Saint-Tron. Il avait mis sa femme en place comme CEO, comme responsable, comme présidente. Et c'est lui qui tirait les ficelles derrière. Donc, Duchâtelet a quand même fait plus de mal que de bien au Standard. Venanzi l'a racheté. Venanzi s'est vu à sec parce qu'il ne savait plus investir tout simplement au Standard. Il était arrivé à un plafond. Et les meilleurs éléments n'étaient plus là non plus. Mais à Anderlecht, on, pour revenir là-dessus, on prend du belgo-belge, on investit, on laisse l'investissement au belgo-belge, mais ce sont des gens. Wouter van den Hout a fait carrière dans les médias flamands, Marc Cook, il a fait carrière dans tout n'importe quoi, mais ce n'est pas la gestion d'un club de foot. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et puis mettre le fils Verskuren en place. Et en fait, tous les six mois, il y avait une autre direction, il n'y a pas eu de continuité, il n'y a pas eu de fil rouge. Ni dans le recrutement, ni
dans... C'est pour ça que j'ai commencé par dire que j'avais pas m'identifié à ce genre de
Voilà, sportif et extra-sportif, recrutement, c'était une catastrophe et il n'y avait pas de fil rouge. Et là, tu refais la même chose avec des Danois. Combien de temps vont-ils tenir? C'est ça la question, mais oui, ça va continuer. Et je pense, effectivement, comme tu le dis, Henri, Anderlecht est revendu à un capital américain. Dans les 4 ans, ils sont de nouveau les meilleurs de Belgique, ils enchaînent les titres.
Bien. Alors, je voudrais maintenant...
À Levaille, comme on dit.
Je voudrais bien qu'on voit encore qu'il ne faut pas vendre son âme au diable. Mais, parce que sinon, les Qataris vont arriver vite fait.
Ou les Saoudiens.
Ou les Saoudiens, bien sûr.
Ça, c'est du teasing.
Je voudrais bien faire maintenant un petit comparatif. On nous dit, voilà, Anderlecht, de l'amateurisme en haut de l'échelle, on va dire. OK. Pas de budget. Football médiocre. On est d'accord? OK. Ils jouent contre Bruges. C'est exactement l'inverse. Professionnalisme à tous les étages, avec un président qui sait de quoi il parle quand il parle de foot. En tout cas, c'est ce que tout le monde...
Jusqu'à un certain niveau, j'ai l'impression.
Mais c'est ce que tout le monde lui prête. De l'argent, il n'en manque pas. Bruges a une gestion, et c'est tout à son honneur, extrêmement bonne. En tout cas, les finances, c'est pas un club qui est dans le rouge.
Grâce à la Champions League, le club de Bruges a un actif très vert.
Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Mais grâce à la Champions League, encore faut-il faire des résultats. Et pour ça, il faut une gestion. Je veux dire, si tout le monde
ne qualifie, peut pas... Tu prends 0 sur 18, tu as toujours empoché 30 millions. Hein, donc.
On est d'accord, mais...
Il y a quand même 5 participations à la Champions League les 6 dernières années pour le club de Bruges.
On est d'accord, mais il faut finir premier ou deuxième.
Tout à fait.
Donc ça change rien. Et donc je veux dire, et finalement le résultat est le même, c'est que c'est une équipe malade aujourd'hui. Alors peut-être pas dans le fond de jeu, parce que en termes de fond de jeu, on a touché le fond justement avec Anderlecht, je pense. Toute proportion gardée.
Espérons que c'est le fond qui creuse pas plus.
Mais alors on peut parler de choc psychologique, on peut parler de blocage, tout ce qu'on veut. C'est quand même des professionnels. Je suis désolé. Alors même si je suis d'accord qu'un attaquant a besoin de confiance, de marquer des buts, un défenseur c'est quoi? C'est de... Je veux dire, un mec comme Mekele, il n'est pas suspect d'avoir mis le pied exprès. C'est vraiment un... Enfin, c'est même pas un but. Hein. C'est un mec
il met son pied et voilà, il pense bien faire. On ne peut pas l'accabler.
Non, mais bien sûr que non. Ça vient sur son pied en plus. C'est dévié d'abord par Odoi, je pense. Puis après... Enfin bref, c'est un truc de ouf. Un Mignolet en super forme qui s'attend un peu peut aussi l'apprendre. Il ne l'apprend pas. Enfin, c'est un concours de circonstances qui fait que... Alors, c'est quoi? C'est où la vérité? Parce que d'un côté, tu as de l'amateurisme, tu as un manque d'argent et qui explique les mauvais résultats. Et de l'autre côté, tu as des mauvais résultats alors que tu as exactement l'inverse, c'est-à-dire du professionnalisme et de l'argent.
La confiance.
Ça reste du foot. Et un noyau exceptionnel.
Ça reste du foot. Hein, c'est pas la première fois que on a bien vu Ruppel Baume et Gay aller gagner Anderlecht quand ils étaient en D3 aussi. Ça reste
ça reste
11 hommes plus les remplaçants l'un contre l'autre qui s'affrontent. Alex, et il y a 40 000 faits de jeu qui font
mais
que
sur un match on est bien d'accord, mais on l'a évoqué tout à l'heure et pour Anderlecht c'est encore pire, mais pour Bruges ça fait 5 matchs d'affilée pour une équipe qui a les prétentions qu'elle a.
L'équipe a bien recruté? Est-ce que l'équipe a tenu compte de beaucoup de variables? Mais je me pose des questions. On a fait le procès de Philippe Clément et du staff sportif la semaine dernière. Oui, il est peut-être temps de commencer à envisager le procès des dirigeants. Est-ce que les dirigeants ne se sont pas crus trop beaux? Est-ce qu'ils ont gardé leur stratégie initiale qui les a rendus forts justement? Parce que tout le monde parle du Bayern de Belgique. On l'a entendu suffisamment les dernières années, mais le Bayern, il ne change pas leur cap. Le Bayern ne dépense pas des sommes astronomiques pour un joueur qui ne va peut-être pas leur apporter ce qu'ils souhaitent. Le Bayern reste avec leur gestion très rigoureuse, certes allemande, mais à chaque fois, ils prennent ce qu'ils ont besoin, ils le prennent convenablement, ils ont des résultats, ils restent au top. Bruges, aujourd'hui, me fait plus penser à ce qui s'est passé à Bâle. Bâle, c'est aussi vu un moment magnifique, passer, avec Salah, Yakin, Cher, Streller, tout ce que tu pouvais t'imaginer comme top du top en Suisse. Mbolo aussi, qui est à Monaco pour l'instant. C'était le top, c'était magnifique, c'était exceptionnel. Et après, ils ont commencé à dépenser sans compter pour des joueurs qui n'en valaient pas la peine. Des, comme Bruges, des Kermčić, des Okereke, même si Okereke sur papier, je comprends. 17 millions pour Yaremchuk. Waouh, je suis désolé. Certes, ok, t'as le transfert le plus cher de Belgique, de loin, était dans le livre des records, et c'est exceptionnel de voir ton nom là. Mais avec 17 millions, moi je vais te chercher 3 jeunes et 2 routiniers. Et sur les 5, il y en a bien un qui va te mettre plus de buts que Yaremchuk parce qu'il en a mis qu'un ou deux.
À sa décharge, il faut quand même relever le fait que il a fait son premier match, je pense, comme titulaire, hein, ce coup-ci.
Je pense qu'il avait joué en coupe aussi. Mais bref, il ne sera jamais à la hauteur des attentes vu le prix. Et c'est ça que je dis. Bruges, la force de Bruges, c'était quoi? C'était d'aller chercher un Wesley au Brésil. C'était d'aller chercher Duarte pour 300 000 euros, Alcaraz pour 500 000 aidés. C'était ça la force de Bruges. C'était d'aller chercher des pépites qui étaient fortes, qui prenaient une place de titulaire, qui avaient un rendement énorme et que Bruges allait revendre. C'est ça, c'était la stratégie de base. Et maintenant, ils ne suivent plus cette stratégie. Ils achètent cher et vilain. Et moi, quand j'ai vu le transfert de Yaremchuk, je me suis demandé, mais ton retour sur investissement de ta vie, tu l'auras pas, sauf si tu joues la finale de la Champions League.
Non, là-dessus, on est d'accord. Là, je suis d'accord. Donc, il y a cette proie. Mais ils l'ont fait. Donc, à partir de là, pertes et profits, mais c'est pas.
Ils l'ont fait et ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation quatrième du championnat. Ouais, ils ne seront pas champions cette année.
Alex,
c'est pas à cause de ce transfert-là, c'est à cause d'une ribambelle de transferts des dernières années. Kermčić, Okereke, Yaremchuk maintenant. Il y en a plein.
Excuse-moi, c'est pas l'argent qui fait les résultats. Je veux dire, sur le terrain, il y a 11 joueurs et finalement, ça n'explique. Alors,
peut-être. Non, c'est ce que je dis. On a fait le procès du sportif la semaine dernière. Là, c'est le procès des dirigeants.
Est-ce qu'il ne remonte pas Charles de Ketelaar?
Je pense que tu demandes ça à un supporter Rossoneri. Il prend sa voiture, il roule toute la nuit, il te ramène demain matin.
On est bien d'accord, sauf qu'il n'a pas de chance non plus. Mais par contre, le débat n'a pas lieu. Si hier, Bruges ne fût-ce que 10% de réussite, on n'en parle même pas. On dit « Waouh, quelle équipe !»
On va dire « Waouh, par cœur, tout est lancé.
Oui, » Ils sont quand même à 15 points du premier.
Oui, mais maintenant oui. Mais hier, s'ils gagnent, ils sont qu'à 12.
Là, ils sont à 17 pour l'instant.
Ah, ils sont à 17, oui, t'as raison. Excuse-moi, autant pour moi, mais même pour eux. Je veux dire, ils ont pas de chance. Quand je te dis sur le match d'hier, mais sur les 5 matchs, il y a un manque de gestion, et ça, c'est pas les millions qui font que... Moi, je les voyais hier jouer, je savais, j'ai senti. Toi aussi, probablement, en tant que supporter.
J'étais au stade.
Ah oui, ben, tu sens à un moment, tu te dis, c'est pas possible, on va s'en prendre un. Et je connais Bruges. Regarde, la semaine passée, on mène 0-1 à Genk. Après, Genk est une équipe splendide, hein, il ne faut pas leur enlever leur mérite, mais le but égalisateur de Genk, c'est, s'il vous plaît, Père Noël, c'est cadeau. Et c'est chaque fois comme ça, et après, on commence à gamberger.
Les 5 derniers buts encaissés par Bruges sont 5 cadeaux.
Oui.
Face à Louvain, c'est un positionnement...
Non, pas le deuxième et troisième but de Genk, ça ne doit rien à personne. Hein. Le deuxième but de Genk, c'est une merveille. Alors, avec le...
Mekele est très mal placé, il a un mètre de son joueur.
Petit pont, reprise, allez, c'est indéfendable, ça.
Non.
Bah, si Bruges avait marqué un goal comme ça, tu dirais quel beau but, tu dirais pas quelle erreur de défense. Hein,
c'est pas une erreur de défense, c'est une erreur de positionnement de Mekele et d'attention.
Oui, ok. Mais
et après, il y a une faute professionnelle de Silla qui va entraîner la suite. Mais face à Louvain, c'est un mauvais positionnement. Hier, face à Anderlecht, c'est une malchance aussi. Mais ça, c'est aussi les symptômes d'une équipe qui n'est pas au top de sa forme et qui a surtout un gros problème mental. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Mais et comme je disais, tu vas tirer ça, pour moi, jusqu'à la fin de saison.
Bah écoute, j'espère que tu te trompes. Par contre, le bon point que moi j'ai relevé, je sais pas si toi t'étais au stade, évidemment, tu avais peut-être aussi une vue plus globale, mais j'ai trouvé que, et ça fait déjà 2-3 matchs, je me le dis, Noah Lang, on a un Noah Lang nouveau, impliqué, qui fait sa tâche défensive, pourtant, voilà, et il est titulaire et il éclabousse à sa façon, d'une certaine façon, mais on l'a pas vu râler, on l'a pas vu engueuler ses partenaires.
Sauf sur son remplacement.
Forcément.
Mais ça, c'est bon signe, je trouve, un joueur qui est pas content de descendre.
Oui, mais tu te mets à sa place aussi, le mec, il voit aussi ses partenaires jouer, il voit aussi, et il sent que lui, il peut apporter quelque chose. même si on peut trouver ça présomptueux de sa part, mais s'il y en a bien un qui est créatif dans cette équipe au jour d'aujourd'hui, comme on la voit jouer, c'est quand même lui. C'est de lui que c'est un petit peu le hasard de Bruges, quelque part.
Je pense que la Coupe du Monde lui a fait le plus grand bien aussi.
Absolument.
Il a changé d'air, il a vu des coéquipiers, il a un Louis van Gaal qui n'a pas arrêté d'être dessus. Il est revenu. Il est revenu avec de l'ambition en se disant « Ma carrière, elle n'est pas finie, j'ai encore une grosse carte à jouer et je vais la jouer.
Mm-hmm. » Moi, j'ai une question, c'était un peu anecdotique, mais faire un hommage à Vormer qui vient de partir, qui joue chez un concurrent, je trouve ça bizarre.
Ah, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Moi,
c'était beau.
J'ai trouvé ce moment.
C'est étonnant quand même.
Et tout le stade à la 25e minute qui s'est levé, qui a applaudi, qui a fait rut. C'était, franchement, c'est émouvant.
C'est étonnant quand même.
Et ça, c'est la phase très, très positive.
Tu l'as vu aussi?
Des supporters.
T'as pas vu
quelles images?
De Vormer pendant la 25e minute, pendant les applaudissements.
J'ai pas vu parce que j'étais au stade, certainement. Je le voyais pas de loin.
Il avait les larmes aux yeux, il s'est levé dans la tribune pour saluer les gens. Il s'y attendait pas du tout à ça, à mon avis. Mais c'est quand même un capitaine emblématique. Je vois pas où est le problème.
Non, je trouve ça bien, mais je trouve ça étonnant parce qu'il est encore actif, quoi.
Bah oui.
Il vient de partir il y a deux semaines.
Il y a encore des joueurs qui partent d'une équipe
et qui reviendront
quand ils reviennent chez eux à la maison.
On sait qu'il reviendra.
Oui, c'est étonnant, ça se fait.
Je pense que Nielsen, quand il reviendra à l'Union, il sera pas hué, hein.
Hué, non, parce que ce n'est pas dans l'ADN.
Non, mais là, c'est pas pareil. S'il revient avec un maillot de Bruges, c'est différent que s'il vient en spectateur.
Non, mais même, je veux dire, en même temps, Nielsen est parti depuis un an, mais il a pas joué, je sais pas combien d'années à l'Union. Ruud Vormer, c'est quand même une figure emblématique de Bruges, c'est quand même le Jan Kullemans des temps modernes, on va dire.
C'est celui qui caractérise le renouveau et le fait de regagner des titres. Il y a eu la première Coupe de Belgique en 2015, il y a eu ensuite le titre en 2016. C'est lui qui réincarne, en fait, ce renouveau avec sa grinta, avec sa mentalité, avec son jusqu'au boutisme. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, d'ailleurs. Un joueur comme ça, même si aujourd'hui, il n'a plus forcément le niveau de cette équipe.
Ritz va revenir, donc...
Ritz, c'est...
Ah, moi, j'adore.
C'est 10% de Vormer dans la arène, dans le caractère, dans l'envie. Ritz est un excellent joueur, c'est un énorme talent. C'est un des derniers joueurs talentueux qui a quitté le Beerschot pour signer à l'Ajax quand ils avaient un partenariat. C'est un joueur qui a énormément de talent, mais il n'a pas cette grinta.
En termes d'infiltration, il me rappelle Vormer. En termes d'aller chercher des ballons, il me rappelle Vormer. Après,
je parle de la grinta, de l'envie. Ouais. Ruud Vormer était un personnage atypique qui plaît énormément à Bruges et qui est détesté par tous les adversaires. Et ça, ce joueur, c'est magnifique. Il caractérise ce renouveau. Et c'est ça qui est... C'est ça qui a fait Bruges aussi. Donc, moi, je trouve l'hommage assez logique.
Ah, moi, j'ai adoré.
Et je pense que tous les supporters de Bruges, ils seraient heureux de voir marquer deux buts mercredi en déplacement à Anderlecht.
Bien, moi, ce que je vous propose...
J'ai mon casque qui ne marche plus.
Je vous propose, ça va être la mi-temps de cette émission. On se retrouve pendant la mi-temps. On va parler maintenant avec toi, Alex. Mi-temps et tout de suite la minute Sportimize. Donc nous sommes toutouilles.
Ah, la minute Sportimize. On avait teasé, on allait parler de l'Arabie Saoudite.
Oui.
Et bon, les plus anciennes générations savent qu'on avait un but face à la Belgique d'Aloueran. Les autres générations savent quant à elles que l'Arabie Saoudite s'est pris 8-0 en 2002. Mais dernièrement, ils ont quand même battu l'Argentine en Coupe du Monde. Tout le monde s'est dit, tiens, c'est sympa, ça change. Et après, il y a eu le transfert de Cristiano Ronaldo. Donc, Ronaldo a signé à Al Nassr. Tout le monde le sait, 250 millions qui va
plus en 100 millions à la signature pour lui.
Plus tout ça. Donc, il y a un énorme pactole derrière. Mais ça cadre, en fait, dans un master plan de l'Arabie Saoudite qui a pour but... de devenir un peu le Las Vegas mondial du sport. Je m'explique. Las Vegas a acheté des franchises un peu partout aux États-Unis dans tous les sports. Et l'Arabie Saoudite souhaite faire un peu pareil. Donc il y a par exemple le Dakar qui se déroule en Arabie Saoudite.
Qui vient de se terminer hier d'ailleurs.
Oui. Jusqu'en 2025, ce sera là. Il y a les Jeux d'Asie en 2029 qui se dérouleront également en Arabie Saoudite. Il y a de nouveau des milliards et des milliards qui seront investis dans des resorts, dans des pistes de ski, dans de la neige artificielle pour toute l'année, etc. Il y a eu Newcastle qui a été repris par le fonds d'investissement saoudien. Il faut savoir que leur budget, c'est 15 fois plus que Manchester City, leur fortune. Donc Newcastle, ils ont l'ambition pas d'être en Champions League l'année prochaine, mais de la gagner dans les 5 prochaines années. Et puis il y a Ronaldo. Et il y a Messi. On se demande aujourd'hui, est-ce que Messi va signer à Al Hilal pour 350 millions par an ou pas ?
Mon Dieu.
Tout ça pour dire, le prochain Qatar, c'est l'Arabie Saoudite. Ils ont l'ambition, ils ont les moyens avec les pétrodollar. Et je ne serais pas surpris de voir l'Arabie Saoudite dans des différentes disciplines, que ce soit olympique ou que ce soit football, pouvoir jouer une carte dans les 10 prochaines années.
Eh bien, donc, fais attention, c'est enregistré tout ce qu'on dit là. Hein. Donc, dans 10 ans, on revient vers toi si jamais tu t'es planté.
Aucun problème. Je connais même des gens qui travaillent dans certaines fédérations là-bas. Ah. Ils mettent les moyens.
Ah bah ça, oui. Mais encore une fois, les moyens, c'est pas l'argent qui marque les buts hein, non plus. Il faut quand même trouver les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment surtout. C'est le moins qu'on puisse dire. Ben merci beaucoup Alex pour cette minute Sportimize.
Avec grand plaisir.
Et on va reprendre la deuxième mi-temps de cette émission. Il est 20h40 et donc on a largement évoqué le topper. Maintenant, on peut peut-être s'intéresser aussi à une équipe. Moi, j'ai vu le match, franchement. Alors, en deuxième mi-temps, ils méritaient leur victoire, mais au vu de la première mi-temps, c'était vraiment calamiteux. C'est le Sporting de Charleroi qui a battu le Cercle de Bruges 2-1, après avoir été mené 0-1. Mais avoir, j'ai pas envie de dire, ils n'ont pas existé, ils ont inexisté pendant 40 minutes parce que le but égalisateur, je veux pas dire qu'il est venu sur, c'est un cadeau de la défense hein, comme souvent, mais là vraiment pour le coup. Et finalement ils émergent. Et encore une fois, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. On dit ah le Sporting, j'ai lu ça en titre est de retour, etc. Je suis désolé, moi j'ai vu le retour de rien du tout. Hein. Après, s'ils sont contents comme ça, tant mieux. Et si c'est de la com, tant mieux. Mais j'ai pas vu un Charleroi conquérant, pour le coup, vraiment pas. J'ai vu un Cercle de Bruges. Pour aller jouer au Mambourg, il faut quand même y aller. Et c'est pas Bruges qui va nous mentir, c'est dimanche prochain. Mais j'ai vu un Cercle de Bruges vraiment très intéressant hier.
Alors, ils ont une belle équipe, mais après, il faut dire, Charleroi, c'est deux fois être mené au score, deux fois face à un concurrent direct, deux fois ils gagnent le match. Mm-hmm. Il y a quand même une patte Mazou là derrière. Avec une équipe qui manque cruellement d'un attaquant. Ça fait un an et demi.
T'as dû s'arracher les cheveux. Hein.
Ça fait un an et demi que Charleroi réclame un attaquant. Enfin, un an depuis le départ de Shamar Nicholson.
Ah, à propos.
Ils ont besoin d'un attaquant.
À propos. J'ai lu aujourd'hui, Osimhen,
quelques millions.
La clause de libération, 100 millions.
Oui.
100 millions. Voilà.
Ce fut une très bonne pioche du côté de Charleroi, pas la première et pas la dernière non plus.
Oui, là c'est plus qu'une bonne pioche. Hein. En même temps, ça doit leur faire mal au ventre de voir qu'ils ont eu un joueur qui aujourd'hui, pour qu'il puisse quitter son club, on lui demande déjà 100 millions à la base. Donc c'est impressionnant.
Il faut dire qu'il est exceptionnel. Hein. Il est en tête du championnat. Hein.
Oui, mais en même temps,
il met deux goals
à la Juve. Hein.
Oui, mais il y a plein de joueurs de Barcelone qui sont en tête du championnat et qui n'ont pas 100 millions de clauses libératoires non plus, par exemple.
C'est pas mal 100 millions.
Et il y a beaucoup de joueurs de Genk qui n'ont pas de 100 millions, qui ne coûtent pas 100 millions de clauses libératoires non plus. Donc, c'est vrai que ça, moi, c'est des chiffres. À la limite, j'ai envie de dire, ça devient presque abstrait en fait, parce que c'est de l'argent. Mais enfin, je sais l'écrire, 100 millions, pas de problème. Mais c'est abstrait, quoi.
C'est abstrait, mais quand on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de 400 milliards, par exemple.
Oui,
c'est encore plus
ça.
Abstrait.
Ben oui, tout à fait. Mais c'est, je veux dire, on perd le sens des normes en réalité. Je sais pas si
il y a deux mondes.
Mais oui, mais les gens se posent des questions en même temps. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur vaut 100 millions, par exemple, Osimhen aujourd'hui? C'est l'offre et la demande. Hein. Il y a aussi une part de ça. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que dans une équipe, t'as un joueur qui gagne 270 000 euros par semaine, on va arrondir à 250, et que dans la même équipe, t'as un joueur qui, sans la passe duquel, il pourra jamais marquer son goal et gagner ses 250 000 euros par mois, qui lui en touche à peine 10 000 ou 8 000.
Non, il y a des variables qui sont justifiées par la qualité incroyable du club, par la formation, par l'âge du joueur, par le nombre de buts inscrits et par un tas d'autres stats. Et alors, on arrive dans une certaine fourchette. Après, il faut pas oublier Benfica quand il voulait vendre Darwin Núñez à Liverpool. Je pense qu'il s'était satisfait de 50 millions. Liverpool est arrivé, on vous donne 60. Benfica a dit non, on veut 100 millions minimum. Liverpool a mis sur table, ils sont partis avec le joueur.
D'accord.
Donc tu touches finalement le double de ce que tu attends.
Oui, mais c'est ça, mais c'est vraiment surréaliste. Alors tu parlais justement de Liverpool, on y reviendra, parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de la Première Ligue aujourd'hui, mais on ne peut pas ne pas parler non plus. Genk, pour la petite histoire, a battu Zulte Waregem 1-0. On va pas dire que c'est une crise à Genk, hein, loin de là, mais ils sont un petit peu, pour le moment, en termes de jeu, après la claque qu'ils ont pris en coupe, gagné contre Zulte 1-0, et encore, Zulte aurait pu revendiquer un, voire les trois points même. voilà, on verra. Ça pourrait relancer le championnat si Genk est un petit peu dans le dur en ce moment. Mais je voudrais quand même qu'on parle de l'Union. Alors, l'Union a un capital sympathie dans tout le royaume, ça c'est une évidence. L'année passée, ce capital sympathie était là. Pourquoi ? Parce que c'était les promus, c'était une belle histoire, c'était romantique en fait quelque part. Et aujourd'hui, ils gardent un capital sympathie important, mais moi j'ai toujours envie de dire quand on dit ah, celui-là je l'aime bien, c'est qu'il n'est pas encore assez bon parce que le jour où tu commences à moins m'aimer, ça veut dire que tu commences à avoir peur. C'est aussi ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ben l'Union est clairement dans l'année de la pas de la consécration, mais de la continuité. Et ils font plus que remplir leur contrat. Ils ont battu l'Antwerp, qui était aussi sur une très belle série, et ils avaient toutes les deux atomisé leur adversaire dans la semaine. Donc là, ils étaient à armes égales. Et franchement, l'Union est toujours aussi séduisante. Mais ce qui me fascine, et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, c'est cette capacité que cette équipe a à s'adapter à tous les scénarios de tous les matchs, de toutes les équipes. Je veux dire, ils ont rencontré un tas d'équipes. Alors là, t'as un plan de jeu, machin. Mais en fonction de tous les éléments des matchs, chaque fois, elle arrive à avoir la bonne réponse, en fait.
Ça, c'est du bon coaching. Hein.
Aussi, mais les joueurs aussi, ils ont un sens.
C'est du coaching en match. Enfin...
Ah, c'est le. Il y a évidemment le coach, son staff et les joueurs. Tout le monde regarde dans la même direction. Oui. Et Carol Gerhardt fait un travail exceptionnel avec cette équipe.
Mais c'est un gars exceptionnel.
C'est un gars exceptionnel. Ça, quand il était joueur, mais également, je l'ai connu comme T2, enfin même comme T1 cette année, mais je l'ai connu comme T2. Il m'a impressionné. Lors de son premier jour de travail, il y avait un match amical contre Dudelange, qui était à l'époque entraîné par Emilio Ferreira. Il a signé son contrat, il était 13h30. À 4h de l'après-midi, il était à Tubize, il était au bord du terrain, il avait déjà analysé tous les joueurs, etc. auparavant, il savait qui, quoi, où, comment, et il donnait déjà des conseils, il était déjà là comme le grand frère auprès des joueurs, pour justement leur donner des conseils pour le premier match. Et il venait d'arriver, quelques heures avant. Donc ça dit tout sur ce personnage qui est méticuleux, qui est intelligent, qui a une énorme connaissance footballistique, et il le démontre chaque semaine, encore une fois, et il s'améliore, il tire des leçons et il avance, et il y a un très très bel avenir qui est promis à lui. En tout cas, je lui souhaite.
Il y a le coaching en match, mais je suis sûr qu'il y a une préparation dingue. Comme tu dis, il y a plusieurs scénarios. Donc je pense qu'il
chaque fait, fois il s'adapte.
À mon avis, il prépare, il se dit dans ces circonstances-là, on joue cette façon-là, cette tactique-là. Si deux circonstances de jeu nous imposent un autre rythme, notre situation, ben on a déjà préparé le plan B, le plan C, le plan D.
Je suis d'accord avec toi, mais je trouve par exemple, notamment dans le chef de Teddy Thomas, qui pour moi est incontournable dans cette équipe. Encore que elle a gagné la semaine d'avant sans lui, on est bien d'accord. Mais tu sens que ces joueurs sont tous intelligents, en fait. Il y en a, ils ont tous cette, j'ai l'impression qu'ils ont même pas besoin, tu vois pas, en fait, pendant le match, c'est un des rares coachs du top qui, en fonction des circonstances, tu le vois pas s'exciter sur le bord de touche. Il est là, il regarde.
Et, il est concentré, il est dans son match.
Exactement. Mais les joueurs réagissent d'eux-mêmes. J'ai envie de dire, c'est même pas, tu ne vois jamais un joueur regarder le regard perdu vers l'entraîneur, comme tu vois dans plein de grandes équipes même. Ils savent pertinemment, et ils sentent le foot, et ils sentent le match, et je pense que ça, c'est une des forces de l'Union aujourd'hui.
C'est aussi la stabilité du noyau, hein. C'est pratiquement la même structure depuis 2-3 ans.
Oui, mais même, les circonstances de match font que, voilà, oui, ils jouent les uns pour les autres, c'est exceptionnel, et ils gardent, et c'est ça qui est fort chez l'Union, je trouve, par rapport à Bruges notamment. Ils marquent et ils continuent dans la même philosophie. Bruges, ils marquent, ils reculent, même inconsciemment, mais ça, il faut casser ce... Mais,
comme dit très justement Henri, il ne faut pas oublier que la colonne vertébrale de l'Union, c'est la même. Tu as Maurice dans le goal, tu as Burgess devant avec Sib et Ismaël Kandous juste à côté. Tu as Teddy Thomas et Sen au milieu de terrain. Et tu as Dante Van Zer en attaque. Les flancs, après, tu les remplaces. Tu mets un Mitoma, un Adingra, on peut discuter sur leur qualité individuelle. Mais... Tu mets le même type de joueur, donc tu gardes en fait cette même philosophie aussi l'année suivante. Il faudra voir qu'est-ce qui va se passer l'année passée. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir l'année prochaine, pardon. Est-ce que des joueurs vont partir, Teddy Thomas, je pense notamment. Et là, on verra justement la grande force.
Oui, mais enfin, l'an passé, on a dit la même chose. Et ils ont perdu Nielsen et ils ont perdu Undav. C'était quand même deux pièces maîtresses l'année passée.
Deux pièces maîtresses,
mais incontournables. C'était les deux premiers noms avec Thomas qu'on mettait sur la feuille de match.
C'est deux pièces maîtresses, mais ça fait pas nécessairement partie de la colonne vertébrale elle-même.
D'accord.
C'est à côté, mais c'était des pièces maîtresses, on est d'accord.
Oui, tout à fait.
Mais que tu as remplacé. Mais il faut voir aussi qu'est-ce qui va se passer si cette ossature se voit brisée ou se voit un peu changée dans 6 mois, enfin, ce mois-ci avec les transferts, même si je ne pense pas, ou dans 6 mois. Pour
après,
la saison prochaine.
Et pour clore peut-être ce chapitre Jupiler Pro League, pardon, on rappellera quand même que l'Union, c'est la seule équipe belge, et depuis bien longtemps qui, à ce stade de la compétition, est encore sous les trois fronts. Hein. Mmh. Ils sont en 8e de finale de l'UEFA, enfin Europa League. Ils sont en demi-finale de la Coupe de Belgique et ils n'ont pas rencontré que des perdreaux de l'année, on est bien d'accord. Et en fait, ils sont à 5 points du leader Genk. 7 points 5 points. Non, 7 points. 7
Henri
points.
Est notre spécialiste non, classement.
7 points.
7 points, c'est-à-dire 3,5. Hein, ça, on va dire 4 à la louche du championnat. Et comme je les vois, on ne sent pas chez eux un moment de faiblesse. Donc, on verra bien. Mais franchement, ce serait comme Genk du reste au jour d'aujourd'hui. Et on va parler que de ces deux-là parce que les autres, ce serait vraiment sur un concours de circonstances, je pense. Mais ce sera de toute façon un beau champion cette année, je pense, en Belgique en tout cas.
Ce qui est chouette, c'est que grâce à lui, il y aura les Coupes d'Europe au Sporting Direct.
Ça, et vous avez encore un match contre Ludogorets, si je ne m'abuse.
Ouais.
Tu avais oublié.
Non, mais il a peur de le voir arriver, oui. À mon avis. Bien.
Mais c'est Ludogorets, je suis désolé. C'est une équipe bulgare. Normalement, enfin...
On verra, on croise les doigts.
On ne peut pas perdre. Hein,
de toute façon, nous...
D'abord, Zulte Waregem est prêt.
Très difficile avec Ruud Vormer.
Et vous recevez ou vous
les Bruges, on reçoit.
Vous recevez.
Je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Vous recevez Zulte, effectivement.
Avec Ruud Vormer et Bruls.
Bruls. Et Bruls. Et après, il y a un Serein qui attend.
Ouais. Et tout le monde joue comme des morts de faim, donc ça va être des morts de faim contre des morts de faim.
Après, si on aurait pris 6 sur 6, votre saison est finie.
Ouais. On est d'accord.
Saison de transition.
Fini.
Bien, je propose qu'on arrête la Jupiler Pro League là, si vous êtes d'accord. On va faire un petit détour, et même un détour de 6-7 minutes par la Première Ligue, avec, et tu parlais tout à l'heure de Liverpool avec des moyens et de l'argent, Liverpool, en parlant de saison de transition, là pour le coup on est en plein dedans, ils ont encore perdu à Brighton, enfin quand je dis à Brighton c'est aussi des fonds...
le Grand Union.
Voilà, c'est des fonds impressionnants, mais enfin, prendre 3-0,
Et sans Trossard.
Et sans Trossard, et surtout sans qu'il y ait rien à redire. Parce que c'est un 3-0 sonnant et trébuchant, voilà qui fait tâche dans le CV de Jürgen Klopp. Et je voulais qu'on parle aussi du derby mancunien, et moins déséquilibré que l'année passée, à la même époque. Le grand City face au petit United, eh ben, c'est devenu peut-être le grand United devant un petit City. Parce que City est loin de répondre à l'attente, en tout cas en Première Ligue cette saison. Ils sont relégués maintenant, je pense, à 8 points ou à 7 points d'Arsenal, qui lui
marche, 8 points.
Ça marche sur l'eau. Et United nous fait une remontada digne des plus grands clubs. En ayant été mené par City en plus 0-1 et un but controversé, on va pas refaire peut-être le match parce que là on n'aura pas le temps. Ils vont d'ici un an, ils en parleront.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Mais United a pris les 3 points face à City 2-1 et donc se relance totalement dans la course à la Champions League, bien évidemment.
Sans Ronaldo.
Je pense que c'est
cause effet.
C'est ce que je pense. Mais tu sais que je n'ai pas beaucoup de d'acquaintance et d'amitié et d'admiration pour Ronaldo.
Là, ils sont revenus à un point
de City. C'est un grand joueur.
Ils sont revenus à un point de City.
Ouais.
Ils sont ex aequo avec Newcastle, je pense. Oui. Mais je pense que le top 4 est déjà plus ou moins connu en Angleterre. Les autres sont un peu loin.
Il y a 2 mois, on n'aurait jamais dit ça en parlant de United, en tout cas.
Non, mais j'étais assez fasciné par leur remontada aussi. En quelques minutes, ils passent de 0-1 à 2-1.
Oui, tout à fait.
Et j'étais tout aussi surpris de Pep Guardiola, qui était complètement amorphe. Et quand tu mènes 0-1 à Manchester, à Old Trafford, donc Manchester United, à 10 minutes de la fin, tu continues à attaquer fleur au fusil de cette manière. J'ai trouvé ça très suspect, même bête en fait.
Mais je vais te dire que dans tous les grands rendez-vous que Pep a loupés, ben, on a toujours remis son coaching en doute, notamment sur les changements de De Bruyne en finale, etc. Après, il a fait ses preuves aussi, hein, on va pas non plus tirer dessus, mais je pense que c'est un gars qui meurt avec ses idées aussi, quelque part. Il a pas la faculté d'adaptation, par exemple, mais il a tellement l'habitude que c'est les autres qui doivent s'adapter à son jeu, que peut-être que c'est nouveau pour lui. Et donc.
Non, mais c'est assez étonnant, et les deux buts de Manchester viennent du même côté.
On est d'accord. On est d'accord. Et Pour rester encore en première ligue, on ne peut pas ne pas évoquer Arsenal, hein, parce qu'on s'est tellement moqué d'eux pendant tellement d'années en disant ils gagnent tout mais ils gagnent rien, ils produisent le plus beau football mais ils sont nulle part. Et bien là, je pense que c'est cette année. Si c'est pas cette année, ils seront plus jamais champions de toute l'histoire du foot. Hein. Cette semaine, c'est Tottenham, et à Tottenham, s'il vous plaît. Je veux dire,
on parle de Topper, mais là, encore une autre symbolique.
Bah, ils ont des finales de Champions League chaque semaine en première ligue, pour être honnête.
C'est plus qu'un derby, c'est une rivalité là. C'est...
Absolument.
Ça s'est battu d'ailleurs après le match, enfin sur le terrain à l'issue du match. Hein.
C'est un peu chaud.
Les joueurs, il y a le
staff.
Il y a un supporter qui a donné un coup de pied à un joueur d'Arsenal, etc. Donc ça ne rigole pas. Mais après Arsenal, effectivement, cette année, si c'est pas cette année, ce sera jamais. Et il faut dire, c'est pas avec des joueurs exceptionnels, des Martinelli, non. Des Ødegaard, qui marquent des buts chacun.
Une équipe.
C'est une belle équipe. C'est un vrai bloc qu'on a construit. Qu'on a mis du temps à peaufiner, mais qui finalement il y est et ils y croient aussi.
Oui, donc, et en même temps, c'est très marrant parce qu'ils étaient en guerre entre guillemets, aux enchères pour c'était sur le même joueur que Chelsea qui l'a emporté. Et finalement, Chelsea, c'est là, enfin de mon point de vue en tout cas, c'est the déception of de l'année, si pas du siècle, hein, parce que avoir injecté autant d'argent. On parlait de ça tout à l'heure en ce qui concerne Bruges. Avoir sur le papier une équipe pareille et produire le foot qu'ils produisent et être là où ils sont au championnat, c'est... Alors là, pour parler de saison de transition, là, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais pour moi, c'est une saison même pas de transition. C'est une saison absolument horrible.
On retrouve le Chelsea d'il y a 25 ans qui est... dans le ventre mou du classement.
Ils ont 20 points de retard sur Arsenal.
Ah, mais il leur faut. Peut-être qu'ils pensent qu'il y a les playoffs et qu'ils n'ont que 10 points. Mais il leur faut peut-être un Eden Hazard, hein, et un petit Romelu Lukaku et un petit Kevin De Bruyne. Hein, ils étaient dans la même équipe.
La troisième fois serait-elle la bonne pour Lukaku ?
Ah, je ne sais pas, mais. Enfin bref, c'est triste de voir une équipe pareille parce que c'était quand même... finalement, de ce point de vue-là, je pense que Eden Hazard a bien fait de partir. Parce que si au jour d'aujourd'hui, il devait être dans une équipe pareille, ce serait encore pire.
Mais après, ça arrive à beaucoup d'équipes d'avoir ce moment mauvais. Tu touches le fond et tu remontes pour les années d'après. Et on a déjà vu dans l'histoire du foot des équipes qui terminent 11e une certaine saison. Ils sont premiers loin devant la saison d'après.
Newcastle est en train de réussir son pari parce qu'ils avaient, l'année passée, ils ont annoncé qu'ils avaient, avec trompette et fanfare, qu'ils allaient investir énormément. Mais ils avaient du mal à attirer les joueurs parce qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Maintenant, ils sont troisième. Ils sont en train de réussir leur pari, donc ils risquent de jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine.
Après,
attirer avec les sous, on en a parlé.
Comme je disais, ils veulent pas jouer la Champions League, ils veulent gagner la Champions League. Manchester City a vu à quel point c'est compliqué, mais c'est le but.
La première étape, c'était d'être européen, pour l'instant, c'est réussi.
Est-ce que tu n'as pas l'impression, finalement, que la faiblesse du jeu, ou en tout cas le manque, j'ai envie de dire, pas d'implication, c'est pas le mot juste, mais j'ai l'impression que cette année, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai presque l'impression que City s'en fout du titre. Eux, ils savent qu'ils sont en Champions League, ils veulent la gagner cette année. Jusqu'à présent, ils se sont mouillés sur tous les fronts possibles et imaginables, et finalement, ils échouaient toujours, et puisque cette année, ils se sont dit, nous, on fait notre banco sur la Champions League, le tout, c'est d'être dans le top 4 pour être en Champions League, la coupe, machin, si on gagne, on gagne, mais sinon, on s'en fout, mais la Champions League, on peut pas la louper. Par contre, s'ils loupent ce pari-là...
Mais c'est ce que j'allais dire, c'est un pari très risqué.
On est d'accord.
Surtout un derby, je pense que là, ils réfléchissent pas.
Je sais pas, mais je trouve pas ce City flamboyant, si ce n'est en Champions League. Bien, il nous reste 2 minutes, et je voudrais revenir quand même sur le championnat de France, une petite seconde, puisque PSG a perdu, avec toutes ses stars, à Rennes, 1-0, score Arsenal, pour faire plaisir à nos amis d'outre-Manche. Ça relance le championnat, parce que Lens est à 3 points du PSG, on ne sait jamais sur un malentendu.
Oui, mais Lens s'est pris les pieds dans le tapis le week-end dernier aussi, donc c'est... Oui. Ça ne changera rien à la finalité du championnat, mais moi je retiens surtout le gros match d'Arthur Théâtre.
Oui, aussi.
Est-ce que ça lui vaudra une place de titulaire chez les Diables, sous peu, avec un coach inconnu?
À mon avis, maintenant que Martinez est parti, y a beaucoup de places qui vont pouvoir être occupées.
Malgré les performances de Vertonghen.
Il n'est pas mauvais, et voilà, mais bon, c'est place aux jeunes, comme on dit dans ces cas-là, je pense.
Je pense qu'après cette Coupe du Monde, il est vraiment temps de construire sur des bases solides, avec une vision d'avenir, avec tout le respect qu'on a pour certains anciens, dont Vertonghen. Il est temps de construire une base solide pour les années à venir et pas continuer à chipoter comme le faisait Martinez.
Et écoutez, on va croiser les doigts. On est à 2 ans d'un championnat d'Europe.
On connaîtra bientôt le nom du coach aussi.
Oui, ben on verra bien. Moi,
j'ai, février, je pense.
Moi, depuis le premier jour, j'espère que ce soit Michel Prudhomme. On verra si c'est un Belge.
Mais les dernières news, mais vraiment toutes fraîches là tout de suite, c'est que Frank Iver Cotteron serait pressenti comme directeur technique.
Directeur technique, mais je vois pas. Je pense que lui, en termes, voilà.
C'est une des dernières news qui est sortie ce soir.
Ben, j'aime beaucoup Frank Iver Cotteron, mais bon, c'est un foot. On l'a vu à l'Antwerp. J'ai presque envie de dire, c'est un foot d'un autre âge, même si c'est très calculé, etc. Et avec beaucoup de rigueur. Hein. Il faut pas lui enlever. Il faut pas me faire dire ce que je ne pense pas. C'est pas un mauvais entraîneur, mais le foot comme Francky le conçoit n'est pas le foot actuel, je pense. En revanche, Michel Prudhomme. Il a quand même tout gagné. C'est quand même un gars qui arrive en ayant gagné partout où il est passé. Donc, il n'y a pas de raison qu'il se loupe avec les Diables Rouges. C'est mon vœu pieux. Bref. Ben, les amis, le temps a passé tellement vite. C'est toujours la même chose. Hein. On pourrait faire des heures et des heures et des heures et des heures. Et oui, puisque il est 21h. On se retrouve la semaine prochaine.